numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Gilles. Ça va, mec? Oui. Tout le monde sont là?
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon! Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de la rue François 1er pour cette nouvelle réunion des enfants d'Europe 1. Tiens, il y en a trois là à côté de moi, je vais vous les présenter dans quelques instants. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'ils n'ont pas engendré la mélancolie sur l'antenne, c'est le moins que l'on puisse dire. Car je vous l'avais promis à l'issue d'une émission passée en compagnie de Gérard Klein, nous allions continuer à évoquer tous ces grands de l'humour et du rire qui se sont succédés sur l'antenne d'Europe depuis sa naissance. Je suis donc retourné fouiller dans les archives de la station, pour vous, et j'ai retrouvé ça, par exemple, la version inédite d'un sketch universellement connu, ou presque, un tube de concentré de rigolade, reproduit en 1974 dans les studios d'Europe numéro 1 par ses auteurs Francis Blanche et Pierre Dac.
Je me demande s'il ne faudrait pas profiter de la présence parmi nous de Pierre Dac pour l'interroger sur la situation qui est en ce moment particulièrement intéressante.
Hein? Oui. Oui. J'aimerais, Pierre, à cette occasion, que vous preniez le personnage du tsar Rabindranath Duval, que vous incarnez depuis si longtemps, avec autant de bonheur.
Incarné de blanchisseuse.
Alors remettez-vous en fleur de lotus.
Encore?
Oui.
Ah, merde alors.
Il n'y a pas de fakir sans lotus.
Mais il y a des lotus sans fakir.
Voilà. Parfait.
Oui.
Votre sérénité.
Ouais.
Vous êtes natif de l'Inde.
Je suis natif de l'Inde.
De quel endroit dans l'Inde?
Chef-lieu de l'Inde.
Quel est le chef-lieu?
Châteauroux.
La réponse à tout, même dans une langue qui n'est pas la sienne, car la sienne est plutôt chargée aujourd'hui. À la suite des gentils petits scotch dont il s'est bourré jusqu'à présent. Votre sérénité.
On verrait quand même, non?
Vous avez un don de double vue.
Oh oui, je vois double.
Il voit double. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que je vous disais. Ce don vous a été donné à votre naissance par les deux divinités tutélaires de l'Inde.
Oui.
Brahma et Vishnu.
Brahma et Vishnu, oui.
Brahma, la guerre.
Et Vishnu, la paix.
La réponse à tout. Votre sérénité.
Ouais.
Vous suivez, je crois, un régime très sévère.
Très sévère.
Vous faites du yoga.
Fais du yoga, bien sûr, la preuve. Fais du yoga, mais ça, c'est spécial, c'est le lotus, la pose fondamentale du yoga, qui procède du zen d'Avesta, bien sûr. Mais je fais surtout du yoga nasal.
Du yoga nasal, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous mettez votre nez en fleur d'artichaut.
C'est ce qu'on appelle le yoga de la narine.
Ah.
Je suis, voilà, le yoga de la narine.
Vous suivez, je crois, également un régime alimentaire très strict. Répondez-moi.
Oui.
Vous suivez un régime alimentaire très strict.
Extrêmement strict.
Ainsi, ce soir, comment allez-vous dîner?
Je dîne selon la coutume alimentaire et rituel des tsars, c'est-à-dire uniquement de la cuisine à l'huile.
Pourquoi la cuisine à l'huile?
Parce que les tsars dînent à l'huile.
Il est merveilleux. Un jeu de mots hindou intraduisible ailleurs qu'à Chandernagore.
Ouais.
Dites-moi, votre sérénité.
Ouais, escroc.
Bandit.
Sale juif.
Mal élevé. Ouais. Vendu aux Arabes.
Ouais.
Vous puez l'essence.
Ouais. Ouais, il n'y a pas de quoi en faire un bidon, non?
Dites-moi, votre sérénité, puisque vous voyez de loin, est-ce que vous pouvez nous prédire l'avenir?
De loin?
Oui.
Oui, je peux même vous dire ce qui se passe très loin d'ici.
D'accord, dites-nous ce qui se passera dans l'avenir proche.
En Amérique latine.
Oui.
Notamment.
Où?
Je peux vous dire qu'à Brasilia du Brésil.
Oui.
C'est la pharmacie Lopez qui sera de garde dimanche prochain.
Voilà. C'est tout, il est merveilleux, il est vareuse.
Alors.
Il est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements, mais ça peut arriver. Votre sérénité, vous êtes merveilleux, envoyez des baisers à l'assistance publique pendant que je dis merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs.
Voilà, il y a des sketchs immortels. À mes côtés, par ordre d'apparition à l'antenne, Robert Villard. Salut Robert.
Salut.
Plus qu'un ami, un frère de Francis Blanche.
Oui.
Oui. Et puis un autre monsieur à qui on doit tous pas mal de fou rire et que je suis ravi d'accueillir dans ce studio, un volcan du rire encore et toujours en activité, monsieur Pierre Péchin.
Bonjour
Pierre.
Bonjour Marc.
Accompagné d'un de ses complices à l'antenne, connu également pour sa grande connaissance du cinéma, dont il a fait profiter Europe 1, monsieur Jean Châtel.
Salut.
Jean. On va revenir un petit peu en arrière pour évoquer justement peut-être notre maître à tous, en tous les cas pour ceux qui aiment se marrer. Votre maître à vous deux, ou à vous trois, Francis Blanche. Il fonctionnait à quoi, Francis Blanche, Robert?
C'est-à-dire?
Il fonctionnait, à l'amitié,
à l'amitié, oui, essentiellement.
Et comment est-ce que le rire était devenu, j'allais dire, une deuxième nature de Francis Blanche? C'était son tempérament de départ ou
Oui, bien sûr.
Tu l'as connu à quel moment?
Bien sûr. Ben moi, je l'ai connu quand j'ai commencé à faire l'émission avec lui sur l'antenne, mais j'étais déjà très client avant de le connaître, et quand Louis Merlin, qui avait pris l'initiative de nous réunir, moi, parce que j'étais sérieux et un jeune homme de bonne famille, bien élevé, avec Francis, il a pensé que la conjonction des deux allait produire des étincelles, ce qui a été, je crois, un petit peu le cas. Et donc, comme j'étais très client de l'humour de Francis Blanche, quand Louis Merlin m'a dit « Vous allez travailler avec lui », j'étais fou de joie. Donc, je crois que Francis l'a tout de suite senti que j'étais un bon client de son humour et de sa bonne humeur et de sa culture, parce que c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel sur des tas de plans.
Et complètement loufoque, hein.
Oui. Enfin bon.
Où est-ce qu'il trouvait ses idées? C'est un petit peu ce que je voulais dire en te demandant à quoi il fonctionnait. Je veux dire, comment il trouvait son inspiration, où il la trouvait.
Ça, j'en sais rien. D'autant qu'il avait des inspirations diverses, parce qu'il a été non seulement l'initiateur de signer Furac, enfin avec Pierre Dac, bien sûr, de Malheur au barbu d'abord. Il a écrit d'innombrables chansons, des chansons poétiques, des chansons. Il a écrit des poèmes. Il avait un génie universel, peut-être.
Pierre Péchin, Francis Blanche, c'est un maître.
Ah oui, bien sûr. Oh là là, génial. Puis comme disait Robert à l'instant, c'est qu'en dehors de tous ces canulars, il y avait des pommes, il y avait une chanson magnifique, notamment « Viens de renvoyer la bonne ».
Oui.
Par qu'elle volait des sous à maman, on l'a machin comme une folle. C'était génial. Moi, je l'avais apprise quand j'étais au cours Simon pour la travailler comme ça. J'aimais beaucoup le texte, et puis qui était à la fois, c'était très cruel, puis en même temps c'était poétique, drôle. Moi, j'aimais beaucoup Francis Blanche.
Jean,
qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait autant de canulars dans sa vie privée qu'il en faisait à l'antenne. Et une fois, il avait acheté une énorme voiture américaine, il arrivait devant Europe 1, ou en tout cas dans ce périmètre, et il y avait des gens attablés à la terrasse d'un café, et lui, avec son énorme Cadillac, il recule, il prend le créneau, et il enfonce la petite 4 chevaux qui était garée derrière. Alors les gens sont un peu surpris, il avance, il recule, il enfonce encore plus la malheureuse 4 chevaux, les gens s'indignent, il avance encore, il recule, il écrabouille complètement la 4 chevaux, les gens disent « Mais enfin, vous pourriez faire attention », il n'a qu'à pas avoir une bagnole de pauvre », il claque la portière et il part, tout le monde est absolument scandalisé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Francis Blanche avait aussi acheté la 4 chevaux, et pendant la nuit, il était venu la garer devant le bistrot, simplement pour faire le gag.
Et il faut ajouter que la voiture en question, il l'avait achetée pour en faire cadeau à Jean Carmet, qui était sa tête de turc, et il l'a offerte à Jean Carmet, qui n'avait pas son permis de conduire, qui a pas su, enfin, il y a toute une histoire de cette voiture après ce gag avec Jean Carmet.
Et la complicité avec Pierre Dac?
Ça, j'ai pas connu. Je les ai pas connus ensemble. Je les ai connus séparément, je les ai pas connus ensemble. Mais bien sûr, il y avait une grande complicité. Je sais que j'ai vu Pierre Dac après la disparition de Francis, et que Pierre Dac m'a dit que c'était son fils et qu'il avait été très 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 affecté par sa disparition.
Robert Villard, ton nom de guerre, ton surnom, c'était le Chichinou.
Oui.
Alors, on écoute d'abord et puis on attend les explications. On est là en 1961.
Allô, allô, Francis Blanche à l'appareil. Bonjour à tous, mais surtout bonjour à l'enfant prodigue.
Bonjour à Robert Villard. Retour parmi nous. Chichinou nous revient, honteux et repentant, comme Aznavour, après nous avoir lâchement abandonnés dimanche dernier, pour des raisons encore obscures d'ailleurs. Où étiez-vous, Chichinou, dimanche dernier?
Dimanche dernier, j'étais en province.
Vraiment.
Une vieille cousine de ma mère qui était malade.
Malade.
Enfin, elle était plutôt morte.
Elle était plutôt morte. Et de quoi?
D'un rhume de cerveau.
C'est pas grave alors.
J'étais inquiet, mais non.
Parfait, si c'est comme ça que vous prenez part à mes deuils de famille.
Oui, écoutez, je vais vous dire, Chichinou, je ne veux pas être plus villariste que Villard, et comme samedi dernier, jour du décès de votre regrettée cousine, vous étiez, si j'en crois, le journal du Doubs, occupé à animer une joyeuse sauterie.
Moi?
Oui, à moins qu'il n'y ait deux Robert Villard, ce qui me paraît quand même une vision de cauchemar. Non, je lis ceci. Samedi 18 mars, de 22h à l'aube, à Audincourt, dans le Doubs, bal des anciens prisonniers, animé par Robert Villard, quotidien. Pour quelqu'un qui a perdu sa vieille cousine, toutes mes condoléances, mon cher Chichinou.
Laissez-moi vous expliquer.
Rien. Je ne veux rien entendre. Vous avez été faire un gala, monsieur Villard. Vous avez été faire un ploum-ploum, comme on dit. Hein. Silence, taisez-vous, je ne veux pas vous entendre. Allez faire vos ploum-ploum, monsieur Villard. Faites-vous remplacer par monsieur Cogoni, monsieur Villard, messieurs.
Non, mais je vous jure.
Non, rien du tout, ne jurez rien. Allez au piquet, comme Cogoni, parfaitement. Et les mains sur la tête, par-dessus le marché. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le de là. Les mains sur la tête, monsieur Villard.
À cette heure-ci,
oui.
Des milliers d'auditeurs attendent le même invité, son excellence du midi.
Oui.
Aussi.
Les deux mains sur la tête, monsieur Villard.
Je peux pas.
Pourquoi?
Parce que je vais perdre ma feuille que j'ai entre les mains.
Bon,
une main, hein?
Oui, alors, mais un pied en l'air, alors.
Ça complique.
Allons-y.
La Méditerranée a réuni ce qu'elle a de meilleur pour enrichir votre table.
Ça devait arriver, ça.
Je reprends.
Oui.
La Méditerranée a réuni ce qu'elle a de meilleur pour enrichir votre table de son ambassadeur. Les oranges les plus savoureuses et les vins les plus fins s'y retrouvent. L'ambassadeur, quel excellent.
Alors ça, on a bien compris que c'était un texte de pub qu'il fallait lire dans une position un tout petit peu particulière et que ça n'a pas été couronné de succès. Mais alors, Chichinou, ça vient d'où?
Eh ben, je n'en sais rien, je lui ai posé la question. La toute première émission que nous avons faite ensemble, il ne se souvenait pas de mon prénom. Et il m'avait donné des prénoms fantaisistes, Sigisbert, Gontran, enfin bon, il ne se souvenait pas de Robert. Et c'était son gag de notre rencontre. Et dans la deuxième émission, il ne se souvenait toujours pas et il m'a appelé Chichinou. Alors, bon, je suis devenu Chichinou et je lui ai posé la question un jour. Il m'a dit « je ne sais pas ». Je lui ai dit « mais pourquoi tu m'as appelé comme ça ? Je ne sais pas ». Je soupçonne. Il y avait, je vois de temps en temps, quand je regarde les films sur les ciné-clubs de la télé, je vois des films d'avant-guerre où il y a un ingénieur du son qui s'appelle Chichinou. Et je pense que ce nom l'a amusé et qu'il l'a retenu et qu'il m'a baptisé comme ça parce que ce nom lui est venu à la tête.
Bon, comme quoi c'est aussi une émission d'information. Ouais. On se retrouve dans quelques instants dans la cour de récré des enfants d'Europe 1.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronceau.
Là, on parlait de Francis Blanche pendant la pause de publicité. Chacun y est allé de sa petite anecdote. Pierre Péchin, Francis Blanche, qu'est-ce qu'il faisait dans
Oui, moi je l'avais vu dans une pièce qui s'appelle Les escargots meurent debout, et puis les trois coups là.
Ouais.
Avant que le rideau se lève, se lève et on voit Francis Blanche en train de planter des clous. Voilà, c'était le souvenir que j'ai de l'avoir vu sur scène.
Il était constamment en train de penser à un gag.
Constamment.
Et il trouvait des idées absolument partout.
Il me préparait certaines, bon, parce que son but était de me faire rire à l'antenne, et il me préparait des plaisanteries pendant toute la semaine quand nous nous rencontrions dans le couloir, qu'on préparait l'émission ensemble. Il me préparait des gags qui avaient leur éclosion sur l'antenne le dimanche et qu'il avait préparé pendant plusieurs jours à l'avance.
Et alors c'était aussi un ami, ça je l'ai appris par la suite, du professeur Choron, c'est-à-dire de l'esprit de Harakiri, devenu par la suite Charlie Hebdo.
Bien sûr.
Jean, d'autres souvenirs de...
Ce qui me marque quand on réécoute maintenant les canulars téléphoniques que faisait Francis Blanche à l'antenne...
On va réécouter tout à l'heure parce qu'effectivement c'est un maître.
C'est que le personnage ridicule, c'était toujours lui. En fait, il mettait en valeur la gentillesse de ses interlocuteurs. Et quand on écoute maintenant... Je ne parle pas de Jean-Yves Lafesse, qui est vraiment dans l'esprit de Francis Blanche, mais beaucoup d'autres sur certaines autres radios de la bande FM notamment, qui font des canulars téléphoniques, sont méchants et jouent aux dépens de l'auditeur dont ils se moquent. Donc l'auditeur devient la victime. Dans le cas de Francis Blanche, c'était exactement l'inverse.
Mmh. Tout à fait juste.
Pierre Péchin, on va parler deux secondes de vous, de toi. Les artistes sont toujours un peu victimes de leur succès, d'un tube qu'on leur demande tout le temps, du rôle dans lequel on les cantonne éventuellement s'ils jouent la comédie. Et vous, c'est toi, c'est la cigale.
Oui, c'est la cigale à la fourmi qui d'ailleurs a été créée ici. C'est-à-dire que j'ai un sketch qui s'appelle Le Metteur en scène. Et au milieu de... C'est un metteur en scène italien qui fait venir une dizaine de comédiens. Et puis au milieu de tout ça, il y a un type qui arrive et il dit, moi je suis pas comédien ni rien du tout. Je viens juste passer un petit coup de barre, lever de fée, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai la sécurité sociale, tout ça. Et de ce sketch, on le passe. Et puis un jour, je reçois des fables en sabir. Avec toutes les fables de La Fontaine en sabir, c'est-à-dire avec, les gens savent peut-être pas ce que c'est, pas tout le monde. Enfin, c'est du sabir, c'est-à-dire que c'est une espèce de dialecte
de patouette
en dans le Maghreb. Et il y avait naturellement la cigale, la fourmi, la cigale, machin. La chute n'est pas de moi, Thibaut pas Tekarev quand même. Et avec Jean Châtel justement et Alexandre Marcelin, on était juste dehors à côté au bistrot
comme par hasard.
Et puis comme ça en improvisant, on dit c'est vous. Oui, qui est là, c'est moi. C'est pourquoi. Je viens juste te demander si tu peux prêter un tout petit peu de pognon, s'il vous plaît. Il faut compter pour faire. Et on l'a fait à l'antenne. Et après, les gens ont appelé. Et le standard était complètement bloqué. Alors moi, j'ai vu Barclay. Je lui ai dit, dis donc, il faudrait peut-être que tu enregistres ça. Et puis là, et ça a été parti, quoi.
Eh bien, on l'écoute.
Merci. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. C'est une petite histoire que j'ai écrite moi-même. C'est l'histoire de la cigale, qui est un petit insecte, qui est une connerie comme ça. Elle va voir une petite copine qui a des bécoques, trois bécoques en vérité à côté, qu'elle est encore une petite connerie qui s'appelle la fourmi. Elle va la voir et frappe la porte, s'il vous plaît. Merci. Excuse de te déranger, je viens juste te voir si c'est possible, parce que moi j'ai rien à bafouer. S'il est possible que tu me donnes ton petit pot de pognon. Des pognons à Falcon. Falcon, t'es pas fiasse. Falcon. T'es pas fiasse, les pas fiasse. Comme toi, tu travailles, c'est tout. Alors moi, j'y prête pas les pognons à les gens qui font rien du tout. Alors, le pafias, t'es ton va. S'il vous plaît, oh, Falcon. Écoute. Falcon, qu'est-ce que tu faisais pendant que moi j'étais en train de travailler, tout ça? Qu'est-ce que tu faisais la ta dernière? Tu dis que tu chantes, tu danses, tout ça, tu joues les comédies. Et puis, tu achètes une voiture, tu achètes la dauphine. Tu n'es pas content, tu vends la dauphine, tu achètes une Peugeot. Devant la Peugeot, tu as la Versailles, tu as un accident. Alors, écoute-moi, je suis très très embêté, s'il vous plaît. Prête-moi juste un tout petit peu de pognon, je suis payé pour fils. C'est une brave petite connerie de rien de tout donner. Si, allez, tire-toi de là, moi j'en ai marre là. Falcon! Falcon, n'a pas de moque. Falcon! N'a pas de bébé, n'a pas de barra, n'a pas de bonne. Allez, Falcon! Qu'est-ce qu'il fait, Falcon? Pauvre petite cigale va y lire dans la nature. Il a rien à bouffer, il crève. Les fermiers travaillent, passent des coups de balai, gagnent des pognons, l'achètent un aspirateur. Tout ça, travaille tout le temps. Et bouffe trop, et crève aussi. Un fractus de myocarde. Moralité, t'es bouffe pas, t'es crève quand même.
Pierre, je te voyais un tout petit peu dubitatif en te réécoutant. Aujourd'hui, pas du tout de la même manière.
Pas du tout. Alors, c'est drôle parce que c'est vraiment très enfantin la manière dont je la fais là maintenant. Parce que il y a des temps morts, l'accent n'est pas vraiment ce qu'il est. C'était vraiment fait comme un gamin qui s'amuse devant ses copains à l'école, quoi. C'était vraiment.
Et aujourd'hui, tu dis que tu le fais plus rapidement.
Ah, beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus de rythme. En plus, je la fais, on me la réclame. Les gens sont contents. Moi, je suis content de la faire, mais elle est quand même un peu réactualisée d'ailleurs.
Ouais, avec Jean Châtel, la société a effectivement pas mal évolué. On peut refaire ça sans trouver des lettres de menaces le lendemain dans sa boîte aux lettres.
Non, mais cela dit, j'en ai vraiment jamais eu des lettres de menaces. Cela dit, il y a une chose à laquelle, par exemple, je disais à l'époque, ils bouffent des couscous cranego, couscous ronron, couscous fido. Ça, je peux plus le mettre, ça, parce que c'est quand même prendre les Arabes maghrébins comme des chiens, quoi. Je veux dire, faut pas exagérer. Il y a des tas de choses comme ça, puis des voitures aussi dont on parlait à l'instant, comme la Dauphine. Plus personne ne sait ce que c'est.
Jean, t'es en train d'imaginer un texte pour Pierre qui soit, j'allais dire, réactualisé.
Oui, notamment plus personne ne sait ce qu'une Dauphine ni une Versailles, mais c'est surtout les relations sociales qui ont évolué. Ce que je voulais dire sur cette époque-là, c'est que les beaux esprits ont souvent dit à Pierre que ce sketch était raciste et qu'il était anti-arabe. Or, je me baladais avec lui, moi j'habite Montmartre, donc quand on se baladait et qu'on passait devant un bistrot arabe, on était appelé tout le temps pour boire un coup avec eux. Eux étaient les premiers fans de Pierre Péchin.
Et ils avaient le disque dans leur jukebox à l'époque.
Aucun malentendu.
Ah non, jamais. Jamais eu un souci avec eux. Jamais.
Il y a toujours eu pas mal de liberté sur cette antenne. L'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Pierre Dac et Francis Blanche sont venus à Europe 1, c'est qu'ils estimaient qu'il y avait trop de pression là où ils étaient auparavant. Poste parisien par exemple.
Oui.
C'est ça?
Oui, bien sûr. Et puis par la suite, avec Coluche, le problème s'est reposé.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur l'antenne d'Europe 1 avec signé Furax, puis avec le fils de Furax qui feront le bonheur de cette station.
Voici. Le fils de Furax.
Mille unième épisode.
Oh, mes amis, cette journée d'hier, ce millième épisode, ont tué Furax.
Tué, quoi, il est mort? C'est pas possible.
Non, monsieur Black, évidemment, ce n'est pas possible. Ah. Mais monsieur Furax est bien abattu.
Oh, il est prostré, enfermé dans sa chambre avec un carperier, mais il refuse toute nourriture.
Ben, que voulez-vous? Après cette terrible journée des dupes, mettez-vous à sa place.
Oh oui. Organisez la recherche des morceaux manquants de l'extrapolateur.
À travers la France entière.
Dirigez les opérations en duplex des studios d'Europe numéro 1, rue François 1er.
Ben, tout coordonner, monsieur Socrate.
Et réussir, Philo, réussir, car Fufu avait réussi.
Ah oui, et au dernier moment.
Allez, crac! Clacmuf, chargé d'aller chercher Orly, le fruit de nos efforts, Clacmuf rentre à son bercail.
Il retourne chez les babus qu'il avait fait semblant de trahir pour mieux abuser de moi.
Là, on peut dire que les babus ont réussi un joli coup.
Et cette saloperie de Clacmuf en première ligne. Oh.
Le jour où Monsieur Furax le repincera, celui-là, ça risque de lui coûter cher.
Et Alexis? Mon pauvre Alexis est bêté, abruti, drogué par cette horrible femme. Oui. Alexis qui a pris les armes contre son père à la tête du commando Babu qui nous a attaqué hier dans le studio.
Le malheureux, il n'est pas responsable, il était hors de lui-même.
Oh. Ben oui, dédoublement de la personnalité sous l'influence des steaks opium que Nepeta Mussini lui faisait manger 12 fois par jour.
Oh, le pauvre chéri, il a toujours aimé les viandes en sauce.
Je me demande si Furax lui pardonnera jamais ce sacrilège.
Ah, vous êtes dur, Black. Incontestablement, c'est encore une victoire des babus.
À suivre.
Et n'oubliez pas de retrouver les aventures de nos héros chaque jour à la page des petites annonces dans France Soir.
C'était le fil de Furax, 1001ème épisode.
Et de qui la mise en onde?
Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanc.
Qu'est-ce qui explique, Robert, le succès de signé Furax et de la suite?
Oh, c'était la folie qu'il y avait là-dedans, la bonne humeur aussi, et puis les trouvailles constantes de Pierre Dac et de Francis.
C'est un genre qui a complètement disparu, ça, le feuilleton radiophonique. Pourquoi?
Oui. Parce qu'il n'y a plus personne pour les faire, j'en sais rien.
Pour les écrire.
Question de mode, je ne sais pas.
Jean, tout l'esprit de Pierre Dac et Francis Blanche, surtout dans Malheureux Barbu et la suite, était axé sur l'absurde et le non-sens. Et ça, c'est un comique qui demande certaines références, j'oserais pas dire culturelles, mais presque, puisque pour avoir le sens de l'absurde, il faut savoir où est le réel. Et comme maintenant, la plupart des gens ont perdu totalement le sens du réel, c'est pour ça que l'absurde a des chances de tomber à plat.
On se retrouve après le flash d'information, on se retrouve avec les enfants d'Europe 1, dans leur récré, et on retrouvera Fernand Reynaud.
Tronchot.
Retour dans la cour de récréation des enfants d'Europe 1 avec aujourd'hui autour de cette table Robert Villard, le chichinou de Francis Blanche, Pierre Péchin qu'on ne présente pas et son complice Jean Châtel. Tous les grands humoristes sont passés par Europe 1. Leur spectacle, parfois enregistré par les soins des équipes techniques de la maison, est diffusé dans le cadre de l'émission Musicorama. Un exemple, Fernand Reynaud, c'est au Théâtre des Variétés, Noël 66.
Ma sœur est mariée. Avec mon beau-frère. Quel beau mariage. Je crois même que ma sœur, elle a fait deux fois un beau mariage en un seul, en ce sens que mon beau-frère, il a une très très belle situation. Il n'y a pas de quoi se marier quand je vous dis que mon beau-frère a une belle situation. Lui, il ne travaille pas à Europe numéro un, lui. Il travaille à la mairie. Il est inspecteur des platanes. Il en faut, alors toute la journée, il inspecte. Quoi ? Les platanes ? Il a d'ailleurs été décoré de l'ordre des platanes. Il a eu un haut fait de platane. Figurez-vous qu'un jour, il était en plein boulot. Puis faut pas le déranger quand il travaille, hein ? Il repère un platane qui penchait à gauche. Très bien, nous allons signaler le cas. Mince, j'ai oublié mon stylo qui se dit, je vais aller le chercher à la mairie.
Il n'y arrivera pas dans son boulot. Hein.
Il revient avec son stylo, le même platane. Au lieu de pencher à gauche, il penchait à droite. Mais tout à l'heure, il dit... Peut-être que je suis venu du sens opposé où j'étais parti. Je vais refaire le tour du pâté de maison à l'envers.
Mon beau-frère,
fais le tour du pâté de maison. Alors, c'est la meilleure blague. Le même platane, au lieu de pencher à gauche ou à droite, il penchait en face. Mon beau-frère fait celui qu'il n'avait pas vu. Retourne, le même platane, il se met à pencher du sens opposé. Mon beau-frère prend son coup de sang, et quand il est énervé, mon beau-frère, il me fait penser à De Funès. Si, Louis De Funès, quand il règne. Alors, vous allez voir la grande vadrouille. On veut pas dire du côté quand va tomber. On penche à gauche. Deux jours, deux nuits, mon beau-frère est resté à côté du platane. Deux jours, deux nuits. Et le platane, il est tombé. Sur mon beau-frère. Affreux, affreux. Il a eu toute la jambe sélectionnée. Alors après, la mairie, reconnaissante, lui a offert une jambe de bois. Fait dans le bois du platane qui était tombé dessus. Il n'y a qu'un ennui, c'est que le bois n'était pas tellement sec. Et comme il habite un quartier humide, alors... Ça germe. Tous les huit jours, quand il a fini de se raser, il prend son petit sécateur.
Fernand Reynaud, qui a aussi été animateur sur Europe 1, Robert Villard.
Oui, il a participé aux émissions du matin, je crois, de 9h à midi. Une émission qui s'appelait Thé, Café ou Chocolat.
Oui. C'était ses boissons, ça ?
C'était pas tellement ce qu'il buvait le plus, non.
Il profitait des pages de publicité pour descendre en courant à l'Athénien, qui est le bistrot d'à côté, qui était véritablement la succursale d'Europe 1. Ouais. Et il se tapait un coup de blanc et remontait en courant.
Et je voudrais pas attrister l'émission, mais malheureusement, ça lui a coûté la vie, puisqu'il est mort dans un accident de voiture dû certainement à cet excès-là.
Pas du tout le même genre de comique, hein. On est dans un comique beaucoup plus sympathique et bon enfant.
Hein. Et d'une façon générale, c'est ce qu'on disait de Francis Blanche aussi tout à l'heure. À l'époque, il n'y avait pas la forme de dérision et même quelquefois même d'aigreur qu'on peut trouver maintenant. En tout cas, aucune agressivité. C'est effectivement bon enfant et familial.
Et Pierre, tu me disais tout à l'heure que c'était pour toi un professeur.
Ah, pour moi, c'était un prof, c'est un type qui m'a complètement fasciné. Quand j'allais dans des surboom à l'époque, j'amenais le 22 Agnières ou les deux croissants. Et à la place d'un disque de rock, quoi, parce que je me disais, tout le monde se taisait, on écoute Fernand Reynaud, je connaissais tout par cœur. Et j'ai essayé de le voir à Bobino pour l'anecdote, parce que j'étais au cours Simon à l'époque, et puis on avait droit à des places gratuites. Donc un soir de première, j'y vais, bon, pas retomber dans le pathos en parlant d'alcool. Mais hélas, bon, il est arrivé sur scène, il a fait tout le métier, ouais, Fernand, puis après, ouais, et puis après, hop. Puis il y a eu un petit malaise, entre guillemets, intestinal ou vomitif sur scène, et fermé les rêves, quel dommage, mais enfin ça fait rien, c'était tellement extraordinaire que...
Mais pour en revenir à Europe 1, on parlait tout à l'heure du rire qui a toujours été présent, moi je crois que c'est l'une des grandes raisons du succès d'Europe 1, en dehors des informations, où peut-être le rire n'était pas toujours présent déjà à l'époque, c'était le rire et la bonne humeur qui ont été des constantes dans l'histoire d'Europe 1, qui ont fait le succès de la station. Ouais.
On parlait de Francis Blanche tout à l'heure, il a été aussi, et sur Europe 1, le père du gag téléphonique. Et on est d'accord que son fils spirituel, quelques années plus tard, ce sera un certain Jean-Yves Lafesse.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Je voudrais parler à monsieur...
Oui, c'est moi.
Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil.
Ah, oui.
De Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein ?
Oui.
Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Robert Ledoux ?
Oui.
Ah non ?
Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur.
Ah oui, oui, oui.
Et il prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact ?
Oh, j'ai jamais vu de client comme ça, madame.
Alors, est-ce que vous confirmez ou pas ?
Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous.
Mais il n'y a pas un homme qui aurait dormi dans vos bras ?
Ah, d'abord, Dieu, pas possible, non.
Je vais vous passer Monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras.
Mais il est cinglé ou quoi ?
Ah, ben ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur.
Ouais.
Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein.
Ouais.
Monsieur Ledoux.
Allô ?
Allô ?
C'est Roger ?
Ouais.
Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit ?
Mais t'es cinglé ou quoi ? Je te connais pas, moi.
Oh, ben dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin.
Ah ben ça, c'est pas mal, par exemple.
Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein.
Jamais je ne reçois personne chez moi, moi.
Monsieur Roger ?
Oui ?
Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux ?
De ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi ?
Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant, ce matin, tu m'as oublié.
Je n'avais jamais eu une pareille affaire.
Roger, est-ce que tu m'aimes ?
Mais t'es cinglé ou quoi ? Je ne te connais pas, moi.
Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi. Là.
Je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais, jamais.
Des contacts ? On n'a eu que ça cette nuit.
Là, ça c'est un coup, par exemple.
Roger.
Oui.
Tu m'aimes ?
Je n'ai pas un toit pour m'aimer, j'ai ma femme, moi, j'ai pas de d'homme, madame.
Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant.
Là, ça, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais, jamais, jamais.
Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger. Il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long ?
J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude.
À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille.
Alors là,
Avec la langue, mon adjudant.
Oh, je la ferme.
Du calme. Calmons-nous.
Oui, oui.
Ça vaut mieux.
Oui, alors, oui, oui.
Il a tourné la langue dans mon oreille.
Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort?
D'où sortez-vous, monsieur Ledoux?
Vous l'avez pris comment?
Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière.
Oh!
Roger!
Il vous appelle.
Oui.
Tu m'aimes?
Zéro à la barre.
Comment?
Zéro à la barre.
Zéro à la barre. Mais tu m'aimes quand même?
Zéro, zéro, double zéro.
Donc je note que vous ne l'aimez pas.
Oh.
Bon, je ne sais toujours pas comment finir cette imposture.
Oh.
Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger?
Dis donc, je pourrais faire venir ma femme.
Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là.
Oui, oui.
Tiens,
oui.
On va le dire tous les deux, d'ailleurs.
Ah oui. Là.
Allez.
Ouais. Oh là 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 là.
Voilà, c'était Jean-Yves Lafesse. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer les gags téléphoniques de Pierre Péchin, parce que, bien évidemment, Pierre a aussi été un spécialiste dans ce genre-là.
C'était Lily Allen et sur Europe 1, Marc Tronchot.
Le retour avec les enfants d'Europe 1, avec Robert Villard, Jean Châtel, Pierre Péchin. On écoutait à l'instant Jean-Yves Lafesse, on a écouté Francis Blanche. Le gag téléphonique, c'était aussi une spécialité de Pierre Péchin.
Oui, oui, oui. Et c'est, on parlait de Francis Blanche tout à l'heure. Et moi, j'étais au lycée, je ne savais pas que Francis Blanche faisait des canulars téléphoniques. Hein? Et puis un jour, je faisais du café-théâtre. Et puis, il y a toute l'équipe à l'époque d'Europe qui était venue me voir. Et puis, on m'a dit, vous pourriez pas faire de la radio. Mais j'ai dit, j'en sais rien. Puis moi, avec un copain, j'étais amusé à piéger des gens au téléphone avec différents accents, avec son africain. Accent arabe, accent militaire, accent tas de trucs. J'ai proposé ça, ils m'ont mis comme ça pour me faire travailler des maquettes, ils m'ont mis à l'antenne. Et donc, on a fait 4000 à peu près. Ils sont passés à l'antenne.
Et Jean, toi, t'étais en régie ou...
Non, j'avais l'annuaire du téléphone et on cherchait à tout hasard n'importe quel nom, des fois qui nous faisait rire, n'importe quelle profession. Ouais. Et la différence essentielle entre Lafesse et Francis Blanche et Pierrot, c'est que Francis avait un seul personnage qui était Monsieur Machepro. Jean-Yves Lafesse a un seul personnage qui est Monsieur Ledoux et Madame Ledoux. Alors que Pierre avait toute une galerie de portraits plus invraisemblables les uns que les autres, dont le général de Verdel.
Ah, il avait
une
trentaine
moderne.
De personnages.
Il y avait Jackie Jacquet, légèrement efféminé.
Voilà. Et le général de Verdal qui a fait fort. Il y en a un qui me revient à l'antenne. L'idée, on a...
Le jeu de mots est intéressant. Ouais.
Mais c'est marrant, c'est des trucs qui sont pas. Il y a des tas de choses qui n'ont pas pu passer à l'époque. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, Jean, quand on avait téléphoné à la garde républicaine. On téléphone, moi je faisais le général de Verdal. Donc je téléphone, garde républicaine. Alors on tombe sur un ponton. Hein, oui, général de Verdal, pareil, avec trois étoiles dont deux. Oui, je voudrais parler au général. Respect mon général. Tant, on arrive vers le colonel. Colonel Intel, général de Verdal, pareil. Bonjour colonel. bonjour, mes respects mon colonel. Oui, bonjour. Passez-moi le général. Ne quittez pas mon général. Je tombe sur le général. Mes respects mon général. Mes respects mon général. Voilà, je vous appelle pour la raison suivante.
Et ça s'est terminé.
Ça c'était alors très rapidement. Hein, je fais vite. Voilà, je vous appelle pour la raison suivante. Je suis détaché à l'heure actuelle au protocole du service de l'Élysée. Et puis voilà, on m'a demandé parce qu'il y avait un attaché dans la salle culturelle d'un pays d'Afrique plus qui doit venir. Et voilà, il y aura les caméras à l'époque dans N2, il y aura Europe 1, des fleurs, hein, nous aimerions que des hommes de la garde républicaine viennent accueillir ces hommes-là. Il me dit, écoutez mon général, soyons sérieux, on va quand même pas déplacer mes gars pour un gars pareil. Je dis, écoutez, les ordres sont les ordres, c'est ce que c'est que l'armée. Il dit, ah oui, mais attendez, Giscard, quand ça nous emmerdait avec ces nègres. Je dis, vous savez ce que c'est, mais je vais vous dire, ah, mais ils nous emmerdent avec ces négros, qui vont aller, un attaché culturel, etc. Puis il dit, oui, mais mon général, on a arrêté. On l'a appelé, on lui dit, excusez-nous, c'est un gars, c'était le nom de Dieu, vous n'avez pas passé ça à l'antenne, dommage, je suis deuxième classe. Il y en a eu plein comme ça, qu'on a appelé, j'ai le premier ministre à l'époque, enfin bon, on peut pas en parler.
Il y en a eu combien?
À peu près dans les 3-4 000.
Oui, qu'on peut retrouver sur Adisque, c'est ça?
Un disque Barclay, oui.
Il y a
pas les 4000, peut-être.
Pas les 4000, non, non.
Mmh. Mais, à propos d'Africains, plus personne maintenant n'imite un Africain, sans dire présentement, oui, oui. Or, en réalité, le point de départ de ça, c'est qu'un jour, je suis tombé sur un annuaire suisse qui était là-haut à la rédaction, et donc on a appelé dans la région de Lausanne, et là, on est tombé au standard sur un Africain qui lui avait pris ce titre typiquement suisse d'utiliser l'expression présentement, qu'aucun Africain n'utilise, mais lui, comme il habitait en Suisse, il disait comme les Suisses, présentement. Ouais. Et maintenant, tous les Africains imités disent présentement. Ouais, ouais.
Alors, il était arrivé aussi, Pierre, de provoquer le fou rire de ces pauvres journalistes, on évoquait la rédaction à l'instant, qui tentaient de mener à bien son flash d'information. Et par exemple, je vous laisse écouter parce que ça se passe de commentaires.
À Beyrouth, au Liban, la situation s'est bien améliorée. Les combats avaient repris il y a 2 jours entre chrétiens et musulmans, ils se sont calmés. Cette accalmie relative survient au moment de l'arrivée de l'ancien Premier ministre Maurice Couve de Murville, Pierre Péchin. Quand on parle de Maurice Couve de Murville, en principe, personne n'a envie de rire, dans la mesure où c'est un monsieur très sérieux, dans la mesure aussi où il est chargé d'une mission de conciliation. Monsieur Couve de Murville a d'ailleurs le sens de la nuance, il ne veut pas parler de médiation. Je suis chargé d'une mission d'amitié. Mais on est parti. Et voilà, il faut que je me rattrape tout seul. Je suis donc chargé d'une mission d'amitié et d'information. Yvan, a-t-il déclaré à son arrivée. Bon, ma prochaine histoire un peu plus drôle que celle de monsieur Couve de Murville. Alors, ce qui est agréable, c'est quand ça arrive avec Péchin, qu'on a un petit bout de fou rire, il arrange drôlement les choses. Je suis en train de chercher ce qui pourrait me faire rire. J'ai l'impression que tout ce que je peux dire. Eh bien, disons qu'un. Oh non, bon, je n'y arriverai pas. De toute façon, ce serait pas grande importance. Je suis étonné à l'état des courses. Généralement, c'est pas triste non plus. Les courses à Hauteuil avec la 6e, le prix Nogent. Tous les chevaux ont couru. Premier le 602, Jaguar ou Vichy. 9,40 gagnants. 3,60 placés. Deuxième le 603, Floirac, 2,10 francs. Troisième le 600, un Méditerranéen, 1,50 francs. Je peux même pas tendre ma feuille à Péchin pour vous donner la 7e. Il est encore sous la table, lui. Je voulais vous faire profiter d'une bonne histoire d'un plaisancier dont la vedette avait été en feu au large de Toulon et qui avait été sauvé par un sous-marin italien. Mais je crois que mon histoire est tellement longue que j'y arriverai pas. Je préfère vous lâcher en espérant que Pierre Péchin arrive à articuler 3 mots et vous dire qu'à 18h, c'est Patrice Belin qui vous présentera le journal.
Pierre, t'as pas honte de martyrer les journalistes comme ça. Tu lui as fait quoi, à ce pauvre Blanzac?
Tu connais Jean-Pierre, oui. Sérieux, mais alors, tu sais, et puis, je sais pas, il commence le truc à Beyrouth, Beyrouth, puis d'un coup, on s'aperçoit, et puis lui, hop, et il part, et puis il est irrattrapable. Et ce qui est terrible, c'est que le lendemain,
Alors naturellement, à l'époque, il y avait toute la rédaction qui était venue. C'était dangereux s'ils prenaient un autre fourrier le lendemain. Il fallait vraiment. Alors il y avait qui? C'était Étienne Bougeot, il y avait Pierre Lescure, Anne Sinclair, Gilles Das. Tout le monde était descendu pour regarder. Attention, il ne faudra pas. Alors moi, je m'étais mis volontairement de dos face à Jean-Pierre Blanzac pour ne pas qu'il rigole à nouveau, parce que la réminiscence de la veille, tu vois. Ce qui est encore pire, c'est Wisslard, tu sais, tu te mets de dos, puis continue. En réalité, il n'a pas craqué du tout, parce que sinon, il était vraiment.
Il a gardé sa place.
Ah, il était formidable. Mmh.
Il y avait pas mal de fou rire sur l'antenne, non?
Eh bien, c'était les vertus du direct, ça. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que tout peut arriver.
Ben oui.
Alors l'information a souvent été la source d'inspiration des humoristes, puis des imitateurs. Le Tour de France, par exemple, je vous propose cette version 99 au micro Laurent Gérard.
Tout le monde pédale.
Gérard Holst, tout le monde pédale en direct du Tour de France 1999. Et oui, grâce à l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, le Tour des drogués est reparti. Alors, mobilisez-vous, mais il y a bon nombre de règles à respecter. Première règle, attention, sur le parcours, n'encombrez pas les portes des pharmacies. Ce sont les points de ravitaillement des coureurs. Deuxième règle, soyez vigilants. Ne ramassez pas non plus les musettes laissées par les champions. Vous risqueriez de vous blesser avec une seringue pas propre. Et puis, attention à Richard Virenque. Dès que vous voyez Richard Virenque, écartez-vous prudemment, car Richard Virenque est surnommé le Attila du vélo. Là où il pisse, l'herbe ne repousse pas. Mais en fait, on sait maintenant pourquoi c'est le meilleur grimpeur, parce que tous les jours pour lui, c'est l'aiguille du midi. Gérard Holst, tout le monde pédale, le tour touche à sa fin. Hier, c'était la dernière étape des Pyrénées. Et personnellement, j'adore les étapes de montagne, uniquement pour mater les cochonnes, celles qui sont assises sur les pentes au bord de la route et qui ont le persil qui dépasse du cabas. De ma hauteur, j'ai un bon point de vulve. Alors mobilisez-vous. La montagne, ça a été dur pour Richard Virenque. Il conserve son maillot à petits pois dans la tête, mais il n'a pas été au top de sa forme, Richard.
Ben, si j'allais pas vite, c'est que j'essayais de lire tout qu'est-ce qu'il y avait sur les pancartes avec des points sur mon nom. J'ai du mal à lire parce que je vais trop vite et que ça me brouille tout mon alphabet. Et comme j'en suis qu'aux 5 premières lettres, c'est pas facile. Alors hier, j'étais pas devant parce que je faisais partie du groupe des attardés. C'est pour ça que Gérard Holst m'a invité. Il aime bien les attardés. C'est son public de son émission, les attardés. Je suis quand même content d'être satisfait que je ramène le maillot à poids à Paris. Si c'est Tibéri qui me le remet, ça fera demi en examen sur le podium. Et ça sera assorti avec les dents de Xavier Tibéri, qui a les pois rouges du rouge à lèvres sur les dents blanches. Sinon, bon, ben maintenant, après le tour, je vais me recycler. C'est normal parce que je fais du vélo, que je me recycle. Je vais faire de la radio. Il paraît qu'avec le QI que j'ai, je peux être animateur à énergie.
Autre grand qui s'est illustré sur Europe 1 avant de faire les belles heures de la télévision quelques années plus tard dans la caméra invisible, Jacques Legras, le spécialiste du canular là encore, et un talent particulier pour garder son sérieux en toutes occasions, tout en demandant des services parfois assez déplacés, chez une photographe par exemple.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame. C'est vous le photographe, madame?
Oui, c'est nous-mêmes, monsieur.
Ah, c'est vous-même, c'est pas un monsieur qui photographie?
Non.
Ah bon. Non, il aurait fallu plusieurs personnes, je veux dire, pourquoi vous êtes photogénique?
C'est pour quoi faire?
Ben, figurez-vous, voilà exactement le problème. J'ai une ancienne amie, vous savez, à moi, je n'avais pas eu depuis des années. On s'est rencontrés, comme ça, et puis on a passé une soirée ensemble, et depuis, elle me dit, il faut absolument qu'on se voit. Et elle voudrait se marier avec moi, quoi, vous savez ce que c'est. Alors, je lui ai dit que j'étais marié, tout ça, mais elle ne veut pas me croire. Elle a raison, évidemment. Je lui dis, mais si, je suis marié, je te donnerai la preuve, je t'enverrai les photos de ma femme et des enfants, tout ça. Alors j'aurais voulu, justement, si vous étiez photogénique.
Oh, c'est un peu spécial. Oui. Vous trouviez quelqu'un que vous connaissez, ça, moi, je peux pas vous faire ça.
Ah, c'est pas obligatoirement quelqu'un que je connais.
Oui, bien sûr, oui. Non, ni ça, ni vous donner des photos, ni rien du tout, ça.
Ah, je ne veux pas des photos, je veux vous photographier avec moi.
Ah oui, mais non.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Non, mais moi, je pense
tiens, voilà la photo, voilà. Photo
non,
de ma
non,
femme.
Non, c'est ça, monsieur. Je veux avoir quelqu'un de libre, vous comprenez, qui veuille bien accepter, parce que ça, vous savez, c'est difficile.
C'est assez délicat. Hein.
C'est pour ça que je préfère demander à un photographe, carrément, vous comprenez? Il aurait pu me photographier avec sa femme.
Ah, oui,
vous voyez?
Oui, là, c'est pas possible, après ça.
Ce jour, j'aurais été loué une robe de mariée, vous comprenez?
Oui.
Suivant la taille de la personne,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr. Remarquez, vous pouvez trouver ça. Faudrait voir un photographe.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai vu le photographe. Je suis rentré, c'est pour
ça. Oui, mais enfin, nous, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible, vous comprenez. Nous, c'est pas possible.
Ben, vous êtes photographe, quand même.
Oui, oui, moi, je suis photographe, bien sûr.
Ah, ben, vous faites des photos, vous, madame.
Oui, je fais des photos.
Ah, oui.
Ben, je refuse pas de vous photographier. Mais moi, j'ai personne pour vous photographier, pour vous... qui fasse la mariée, quoi, c'est ça que je comprends bien, hein.
Ah oui, mais la dame qui est de la
mariée. Ah, ben la dame, elle est mariée, vous pensez bien qu'elle va pas se mettre. Non, ça c'est une chose pas possible, monsieur, ça c'était impossible, hein. Non, ça c'est une chose impossible pour elle.
Parce que c'est juste pour lui montrer la photo.
Ah oui, 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 mais ça c'est une chose impossible, faudrait que vous trouviez quelqu'un, nous on refuse pas de vous photographier, mais c'est tout.
Parce que ce moment-là, vous comprenez, bon, je loue une robe de mariée.
Oui, hein? Oui, alors, je comprends bien ce que vous voulez, mais je vous dis, ça, nous, c'est pas possible. Ça, faut pas compter, ça. Non, c'est pas possible, on peut pas faire.
J'apporte la robe de mariée.
Oui, oui.
Madame met la robe de mariée. Mm-hmm. Vous nous prenez une photo, n'est-ce pas?
Non, non, mais ça, c'est pas possible.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, bien sûr.
Eh bien, vous pourriez les amener, alors.
Non, mais ça, c'est pas possible. Son mari ne consentirait pas à une chose comme ça, sûrement, je le connais. Ça, ça, faut pas y penser, ça. Non, ça, c'est pas possible.
Vous comprenez, ce qu'il me faudrait, c'est juste une photo de nous deux.
Nous, de nous deux en mariage. Oui, mais ça, c'est pas possible. Ben c'est pas la peine d'insister, nous ne pouvons pas.
Non, mais je vous explique, là. Je vous explique.
Oui.
Une photo de nous deux en mariée. Et puis, alors, une autre photo, alors, plus en mariée à ce moment-là, n'est-ce pas, avec nos enfants devant, mais pas en mariée, évidemment.
Non. Ça, c'est pas possible. Nous, on peut vous faire les photos, c'est tout.
Non,
vous pas la peine d'assister, je ne peux pas. Ça, c'est pas possible.
Non, vous auriez dû me le dire tout de suite, voilà ce que je veux dire.
Ah oui, bah, je vous ai dit tout de suite, je savais pas ce que vous vouliez, je peux pas vous le dire avant de savoir, vous comprenez?
Non, c'est bien, non, mais c'est quand je suis rentré, vous auriez dû me dire, je crois que vous avez expliqué, vous auriez dû me dire, c'est pas possible.
Là, c'est pas possible.
Il faudrait. Le truc de mariée avec des fleurs blanches, vous savez.
Mais
vous, en robe de mariée, moi, en mariée.
C'est pas possible, alors.
Ah, ben si, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, non, mais. Non. Mais la photo classique de mariée, vous voyez.
Bien sûr, monsieur.
Moi, vous tenant tendrement, si votre mari le permet, évidemment.
Mais enfin, monsieur.
Moi, vous tenant tendrement.
Mais enfin, monsieur, n'assiste pas, alors ça suffit. C'est pas possible. On vous dit non, alors c'est non, n'est-ce pas?
C'est non, mais.
Mais il y a d'autres photographes, allez voir d'autres photographes.
Mais oui, il y a d'autres photographes, je vous expliquais ce que je voulais.
Mais monsieur, nous, on vous dit qu'on peut pas. Alors, n'insistez pas davantage.
Ah, si,
vous. C'est une chose infaisable pour nous, puis c'est tout.
Tant pis.
Tant pis.
Non, parce que je vous aurais laissé les chapelets à vous.
Oui, non, merci, monsieur.
Moi, je vous aurais laissé les deux chapelets de Badim, création de Badim.
Oui.
C'est pour l'émission d'Europe numéro 1 pour
garder le sujet. Vous croyez que je me faisais peur?
Je vous faisais peur?
Non, oui.
Ah, ben voilà. Voilà, je fais peur maintenant. Autre chose.
Vous me faisiez peur.
Il gardait toujours son sérieux, hein, Jacques Legrand.
Mais ce qui avait d'étonnant dans son personnage, c'est qu'à la ville, c'était quelqu'un d'extrêmement timide, réservé, presque introverti. Et dès qu'il était lancé dans un de ses sketchs, c'était un autre personnage, ébouriffant de créativité, de fantaisie.
Souvent comme ça, les artistes, non?
Ah oui, mais enfin, des gens comme Francis Blanche, dont on a parlé, étaient constamment en inventivité dans la vie.
Jean Châtel, il y a quelque chose qui est surprenant aussi. Qu'est-ce que les gens sont patients? Qu'est-ce qu'ils sont sympas?
Oui.
C'est la façon aussi dont le langage a évolué. Je ne voudrais pas faire du « c'était mieux avant », mais on s'aperçoit aussi de ça dans Le Petit Rapporteur, Jacques Martin, quand Daniel Prévost et Pierre Desproges rentrent dans une épicerie pour emmerder cette brave dame. Elle garde toujours sa politesse et une forme de courtoisie qui n'existe plus maintenant. Elle leur dit « enfin, messieurs, je vous en prie, maintenant, ça serait « tirez-vous, bande de cons ». C'est tout à fait autre chose.
Pierre Péchin, ça donne envie de refaire des canulars téléphoniques aujourd'hui?
Oui, justement pour voir l'évolution. À la limite, pourquoi ne pas prendre un peu, les idées de l'époque, et puis refaire les mêmes à peu près, pour voir comment la société a évolué, comment les gens prennent maintenant les choses.
On risque d'être un peu déçu, non?
C'est pas sûr.
Non.
Ça dépend comment on les prend. Il faut être crédible au début, surtout.
On se retrouve dans quelques instants.
Chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime au glissant or et noir. Tes bas sur tes mollets, de ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Chaleur dentelle, au vent
sur les balcons, c'est un peu toi qui danse. Quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton, de ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge, plus de lèche, vitrine à ses caches, poitrine que j'ai séchée. Dans une heure environ, tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision, de ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, concurrence déloyale de ton chauffage central, une pluie et danse interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau, un ravalement de façade me cache ta palissade, une maison de retraite devant ma fenêtre, sur un fil par centaines, sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
C'était Renan Luce et tout de suite Marc Tronchot.
Retour en compagnie des enfants d'Europe 1 avec Robert Villard, Jean Châtel, Pierre Péch. Faites le bébé, Pierre.
Non, je faisais juste là.
Alors, il y a des comédiens très sérieux aussi qui ont commencé par faire rire. Le couple formé par Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret. Le premier joue le rôle de Racine. Le second, celui de Louis XIV, extrait enregistré dans les studios d'Europe 1 en 1960.
Voici donc Darras et Noiret, qui ont choisi d'aller faire un tour au grand siècle. Du costume de cette époque, ils n'ont emprunté que la perruque. Mais alors, une perruque très abondante, envahissante même. Noiret est assis, il est en train d'écrire, mais quoi ?
Tiens, c'est une bonne idée, il faudra que j'en parle à Vauban.
Ma fortune va prendre une face nouvelle.
Nom d'un chien, un coquet.
Pardon.
Oh, est-ce vous, chère Racine, au jour trois fois heureux?
Que béni soit le ciel qui vous rend à mes voeux.
Monsieur Racine, mais voilà des mois qu'on ne vous a vu à la cour.
J'étais à ma campagne. Je méditais.
Vous êtes devenu éditeur à présent?
Non, je méditais.
Ah, vous éditiez?
Non, je ne méditais pas, je méditais.
Ah, vous méditiez?
Non, je ne vous éditais pas.
Je ne comprends pas.
Je me livrais à la méditation.
Oh, mais je reconnais bien là le beau dramaturge que vous êtes. Oh. Venez donc, Racine.
Majesté, votre cire est bien bonne.
Mais non. Allons, que puis-je pour vous?
Je me suis permis de venir importuner votre majesté pour lui demander une petite faveur.
Laquelle?
J'aimerais faire ma rentrée théâtrale.
Mais en voilà une bonne idée! Vous avez du temps, voici quelques années, de vous fâcher à propos de cette cabale sur votre fête.
Mais ils ont été bien vagues.
Mais certainement. Mais il ne faut pas être susceptible dans le théâtre, vous le savez bien. Alors que voulez-vous de moi? Un conseil?
Ah non.
Mon opinion?
Ah non, sire, je ne voudrais pas vous en priver.
Mais alors?
Eh bien, je voudrais une petite subvention.
Ah non, il n'en est pas question. Pas d'argent pour le théâtre en ce moment, Racine. Ah, oui, vous savez pas ce que me coûte déjà la maison de Molière.
Ah oui, mais moi!
Sans compter les les ennuis que j'en tire. Ils veulent tous s'en aller, les capricieux. Oui. Les meilleurs s'en vont.
Les meilleurs s'en vont.
Oui.
Et les mauvais restent.
Oui. Non, ça n'est pas possible. Non, non, pas d'argent
pour les faire. Si, peut-être en le demandant très poliment à Colbert.
Ah, mais Colbert distribue son petit budget de poche comme il l'entend. Hein. Ça, vous vous arrangez avec lui, oui.
Oui, oui, mais toutefois, peut-être... Peut-être pourrait-on obtenir...
Non, dans l'état actuel des choses...
Dans l'état actuel des choses?
Non, enfin, dans l'état, oui, enfin, pauvre état. Enfin, pauvre de moi, quand vous n'êtes pas sans savoir que l'état...
L'état, c'est moi.
Non, l'état, c'est moi.
L'état, c'est moi.
Eh ben, c'est pas vous, c'est moi, oui.
Oui, l'état, c'est vous.
C'est ça. Alors, vous avez tout de même de la chance d'être gouverné par un roi qui aime le théâtre.
Ah, hein. Si vous êtes le roi des arts.
Vous trouvez...
Oui, c'est... Ah, c'est j'écrirai une ode à ce sujet.
Oh, de toi là que je m'y mette. Oh. Ah, Youkla rira.
Votre majesté est-elle amusante.
Vous trouvez?
Et je l'intitulerai...
Comment donc?
Ode. Ode à Louis XIV.
Oh, mais où allez-vous chercher tout ça?
Ah, c'est là-dedans.
C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que votre pièce?
Une tragédie.
Encore? Mais vous ne savez faire que ça, hein?
Ah bah, c'est mon style, sire. Je suis un classique.
Eh bien, monsieur Racine, vous ne vous mouchez pas du pied, hein? Un classique, un peu de modestie. Certes, vous avez eu quelques jolis succès, Andromaque, Britannicus, Mithridate.
Ah, joué 7 fois.
Ah, quand même, oui. Sidna aussi, ça n'était pas mal.
Bon, pardon, mais Sidna, c'est le Corneille.
Ah oui, ça n'est même pas de vous. Non, non, vous avez un gentil talent, mais vous n'êtes pas commercial.
Ah non.
Heureusement que, pour illustrer mon règne, j'ai des auteurs solides tels que Racan, Bois Robert, Mademoiselle de Scudéry. Oh, voilà, ça c'est intéressant. Mais la tragédie, oui. C'est fini, mon Dieu. Ce qu'il faut, c'est du commercial maintenant. Regardez le succès des Amants magnifiques.
De Louis Malle?
Non, de Molière.
Ah, ah.
De Molière. Voilà, de la plume, de la danse, de la chanson.
Évidemment, moi c'est moins gai.
C'est lugubre, vous voulez dire. Hein.
Certes, sire, mais ce nonobstant.
Non, il n'est pas question en ce moment d'ouvrir une seconde salle subventionnant des spectacles ennuyeux. C'est clair.
Mais je croyais que votre majesté poursuivait une politique de grandeur.
Oui, certes, alors... certes, je la poursuis, cette politique.
Ah, alors?
Mais d'une part, je n'arrive pas à la rattraper, et d'autre part, ça n'est pas aux artistes de s'en mêler, hein?
Très
bien. Et puis, d'ailleurs, où voulez-vous que je trouve l'argent?
Par un impôt nouveau?
Non! Tant que je vivrai, il n'y aura pas d'impôt nouveau.
Parfait.
D'abord, vous avez une idée, vous?
Oui. Pourquoi votre majesté n'oblige-t-elle pas... tous les possesseurs de carrosses, chaises à porteurs, diligences, phaétons, à imposer sur leur véhicule un petit papier timbré aux ordres de votre majesté et mis en vente dans les manufactures royales.
Une sorte de vignette. Voilà,
exactement. Alors, le prix serait proportionné au nombre de chevaux de l'Atlas.
Oui, enfin, je vous suis.
Pour un carrosse à 4 chevaux,
oui. 200 pistoles.
Voilà. Ah, pour un carrosse à 6 chevaux.
Oh, 500. Mais ils vont hurler.
Oui, mais au début, et puis après, ça deviendrait une habitude. Mais pourquoi votre majesté se fendait-elle la pêche?
Eh bien, je me la fendais, Racine, car je songeais à ce que m'aurait coûté la vignette pour la voiture de mon couronnement. une Versailles à 25 chevaux. Oh non,
Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret, ce qu'on vient d'entendre, Jean Châtel, il y a une petite histoire, il y a un petit commentaire à faire.
C'était deux acteurs très sérieux du TNP de Jean Villard, donc ils étaient au Palais de Chaillot à 20h30 où ils devaient gagner des clopinettes et pour arrondir leur fin de mois, eh bien ils allaient faire du cabaret le soir. C'était une pratique assez courante à l'époque et ça c'était un sketch qu'ils ont dû créer dans la petite salle de la Tête de l'Art ou un endroit comme ça. Et donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'était du comique de référence. Là encore, on fait plein d'allusions qui maintenant, j'ai peur, passeraient un petit peu au-dessus de la tête de certains jeunes candidats au bac, puisque j'ai appris que cette année, un candidat qui avait écrit sur De Gaulle l'avait orthographié De Gaulle comme deux gardiens de but.
Mmh. Oui. Ben. Pierre Péchin, faire de la radio, faire de la scène, il y a un public qui est apparent dans un cas, qui ne l'est pas dans l'autre, mais ça reste la même chose ou c'est complètement différent?
C'est quand même un peu différent. C'est quand même un peu différent. Parce qu'il y a quand même le côté visuel qui est très important quand on fait de la scène, c'est sûr, quoi. Il y a le côté, les mimiques, évidemment, qui peuvent pas passer à l'antenne. C'est clair, hein.
Et puis, il y a le retour du public, alors qu'à la radio, il n'y a pas de retour.
Voilà. Mmh. Mais nous, on avait quand même la chance de rigoler. On était tous les trois. Il y en avait trois ou quatre personnes, quelquefois, qui venait, on était vraiment des gamins, quoi. On s'amusait comme des enfants ici sur à la radio.
Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que Europe 1 ressemblait d'une certaine manière à une sorte de gigantesque laboratoire comme ça, avec des gens qui venaient et qui quelques années plus tard ont connu une notoriété.
On sait pas. Nous, c'était un détonateur. C'est la radio qui avait eu l'idée. Nous, on est venu comme ça. On était.
Je crois que grâce à Louis Merlin, Europe 1 était une radio totalement différente, on l'a dit 100 fois, j'enfonce les portes ouvertes, totalement différente de ce qui existait à cette époque-là.
Alors, Robert, toi, tu as eu la chance d'être à la fois, comme on disait au début de l'émission, chichinou de Francis Blanche, ouais. Et puis le complice de Coluche.
Oui. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. C'est-à-dire, dans l'esprit de la direction, de créer un équilibre entre quelqu'un de difficilement contrôlable, comme l'était Francis Blanche et Coluche, et puis quelqu'un qui était chargé, moi, en principe, de canaliser les choses.
Et le rôle était peut-être le même. Est-ce que les personnages, Francis Blanche et Coluche, avaient des points communs?
Peu. Une même puissance comique, bien sûr. Mais non, c'était des personnages totalement différents.
Jean Châtel.
Pour ce qui est d'Europe 1, pourquoi ça a été un tel vivier? Je crois qu'il y a eu une forme d'alchimie. Des gens se retrouvaient là. Il y avait les très sérieux journalistes de la rédaction, les plus sérieux de leur génération, qui a été d'ailleurs une pépinière de talents formidables qui sont encore en place maintenant partout. Et puis, à l'étage en dessous, il y avait les saltimbanques dont nous étions et qui tout ça se mélangeait. Et je crois que c'est comme tous les tours de magie. Il faut surtout pas essayer de les expliquer.
On parlait de Coluche, auquel Europe 1 a rendu hommage ces derniers mois. Je sais plus qui a inventé l'expression « le déconophone est ouvert », mais en guise d'illustration sur l'antenne, ça donnait quelque chose comme ça.
Bon alors, vous êtes prêts? Les cœurs en place, les cœurs, allez les cœurs.
Allez les cœurs.
Tiens, j'ai trouvé une commune pour les mecs qui voudraient gagner du blé, hein. Ils offrent 60 millions de centimes à celui qui tue le chat. Alors tous les mecs ont un vieux chat, un truc comme ça. Prenez une 22, ils en mettent une balle dans la tronche. Et vous l'amenez à l'arrêt de tes conneries, il est content. Bon alors vous y êtes là les cœurs? On y va. Marche tout droit, cette fille-là, ne la regarde surtout pas. Marche tout droit, cette fille-là, que tu l'auras, c'est une cochonne. Marche tout droit, cette fille-là, une seule. Ah, un poil, les gousses. Elle est tombée, elle n'avait pas de culotte. La séquence est le derrière, c'est tout fendu. Eh bien, merci d'être venu si nombreux. C'était donc Marche sous droit. Merci. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait jouer à une petite connerie?
Oui.
Allez. C'est une histoire belge. Vous voulez une histoire belge?
Oui.
Ça réveille bien. On a des lettres. Allez. Ils écrivent saloperie de français. Bon, c'est un enfant belge qui a 17 ans, il rentre de l'école et il est un petit peu en retard pour son âge. Pas pour la journée, pour son âge en général. Il n'est pas que belge donc. Et alors, il est un petit peu en retard et puis alors sa mère lui dit « T'as fait les progrès à l'école ?» Il dit « Oui, maman, j'ai appris à compter sur mes doigts. » « Ah, c'est bien, vas-y, fais-le. Un doigt, encore un doigt et un autre doigt. » Très bien. Bon, alors c'est tout, juste pour raconter ça. Là. C'est une histoire un peu dégueulasse, mais je le dirai tout à l'heure, c'est un petit peu dégueulasse. C'est une fille, un mec qui vient pour faire le BCG à une fille, qui est assez jolie comme ça, elle lui dit « Je vous le fais sur le bras ou sur la cuisse ?» Elle dit « Faites-le sur le bras, ça se verra moins. » Ça te fait rire, toi, c'est
oui.
Ça me sidère.
Robert, comment on travaille avec Coluche?
C'est tout à fait simple.
Ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, du travail?
Non, pas du tout, bien sûr, c'était pas du travail.
Raconte un peu comment c'était.
Il n'y a aucune préparation. Coluche faisait une chose, il lisait tous les jours soigneusement les journaux. Il était intéressé par la politique, par ce qui se passait dans le monde, et
il venait... Il a fait des revues de presse aussi.
Mmh. Oui, bien sûr. Et il découpait tout ce qui était dans la presse du jour et qui pouvait lui permettre d'improviser. Donc moi, je ne préparais rien, je réagissais en fonction de ce qu'il amenait.
Jean Châtel, un souvenir de Coluche.
C'est qu'ils étaient, là encore, j'ai été obligé de faire de la publicité, mais l'établissement n'existe plus. L'émission se faisait à la terrasse de l'Athénien.
Oui.
Les gens qui ont traversé la rue François 1er à cette époque-là, ils ont vu vraiment tout Paris en train de rigoler sur les tables de ce bistrot, qui a changé de nom depuis. Mmh. Et on avait fini par installer un téléphone avec une ligne grise. C'était un numéro de poste d'Europe 1 qui sonnait à l'Athénien, parce que quand on cherchait quelqu'un, on avait toutes les chances de le trouver là. Et parmi les joyeux de riz qui préparait les émissions avec Coluche.
Oui, il y avait une vraie bande.
Il y avait un petit jeune homme dont on se disait, celui-là, il ne fera jamais rien dans la vie, c'était Gérard Lanvin.
Mmh. Exact.
Et Gérard Lanvin, lui, était chargé de trouver des histoires drôles à Coluche. Il travaillait, lui, en recherche d'histoires drôles.
Et toi, Robert, tu faisais quoi, alors?
Rien. Je riais, je réagissais. Et contrairement à la mission qui m'avait été attribuée par la direction, c'est-à-dire d'essayer de freiner Coluche, de temps en temps, je le poussais au crime.
Freiner Coluche, ça voulait dire quoi?
Ça voulait dire essayer de l'arrêter quand il allait dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais c'était impossible. Et comme ça m'amusait, je l'excitais en plus. Je l'excitais surtout.
Pierre Péchin, Coluche, ça a quelle importance?
Pour moi, ça en a énormément. Je trouve que c'est le plus grand chansonnier moderne qu'on ait jamais eu. Quoi. Mmh. Je le prenais presque plus pour un chansonnier qu'un comique. Je trouve qu'il a vraiment déblayé un terrain extraordinaire à ce niveau-là. Quoi. Pour moi, c'était vraiment le chansonnier moderne, mais magnifique.
Quels sont les ressorts du rire aujourd'hui, en 2006, par rapport à ce que pouvaient être ces ressorts il y a quelques années et celles qu'on vient d'évoquer?
Je pense que les ressorts n'ont pas vraiment changé. Les ressorts sont toujours les mêmes, avec la seule différence, c'est qu'on ne peut plus tout à fait rire, naturellement, des mêmes choses. Et puis, c'était assez facile à l'époque. Je parle pas de l'époque de Coluche, je parle d'avant, parce que, naturellement, Coluche a enfanté beaucoup de jeunes talents qui sont toujours présents. Mais avant, comme Fernand Reynaud, par exemple, on pouvait se moquer facilement de l'administration, la police, on se moquait de la douane, on se moquait des trucs comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut trouver d'autres terrains. Mais les autres terrains, enfin, pour moi, je veux dire que ça n'a pas vraiment changé, parce que c'est toujours des personnages différents, donc qui sont emmenés dans un monde différent. Quoi.
Et c'est cette recherche que tu es en train de faire pour un spectacle à venir.
Voilà, c'est ça, oui, qui est pratiquement, qui est en écriture. Il y en a tellement qu'on a écrit qui sont mis de côté pour préparer.
Mais qu'est-ce qui fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Parce qu'effectivement, je ne sais plus qui d'entre vous signalait tout à l'heure que l'information c'était rarement gay, mais je veux dire, quand on regarde le monde autour de nous, on veut faire rire, parce qu'on a le sens de la contradiction,
on
peut s'abstenir.
Oui, d'accord, mais moi je pense qu'à partir du moment où je me colle pas jamais à l'actualité, parce que c'est vrai qu'on ne va pas tomber dans un terrain politique, c'est pas mon truc personnellement, et puis je pense qu'à partir du moment où on étudie un personnage, que le personnage est drôle, ça sera plus d'acteur, c'est plus un travail d'acteur, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est bizarre, qui a un accent bizarre, d'où il vient, les ethnies, moi ça m'a toujours vachement intéressé, et c'est pour ça que c'est de plus en plus multiculturel, on peut en rire. Moi, j'ai un sketch, par exemple, qui est sur les doubles accents. C'est-à-dire, j'ai un allemand marseillais, j'ai un belge...
Ça donne quoi, un allemand marseillais?
Un allemand marseillais, c'est un type qui dit « Mon avancée sur Marseille, c'est bien passé. Hein. » Avec Marius, un t'escartafiche, on a monté une division de pétanque. Hein. On reconnaît mes boules parce qu'elles sont quadrillées. C'est des trucs comme ça. J'ai un Suisse chinois aussi.
Un quoi?
Un Suisse chinois.
Ah oui?
Je suis installé à Genève, qui est monté un restaurant. On mange de la fondue avec des baguettes. Ou l'on prendra les tartes au chocolat. Enfin, tu vois, c'est ça. Puis j'ai aussi j'ai un arabe alsacien aussi.
Allons-y.
Salut Pierre Hoblin. Je suis maintenant installé en Alsace. Par moment, je regrette la France. J'ai un bon copain, il s'appelle Rachid. Il m'apprend à faire la cuisine, elle est Will. Ici, tout le monde connaît Will à Rachid. Hein. C'est comme ça.
Ça donne envie. Robert, toi, tu as fait sur l'antenne d'Europe 1 une émission qui s'appelait Qu'est-ce qui vous fait rire?
Oui.
Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui?
Ce qui me fait rire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me font rire parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont du talent. Et je crois que l'héritier de Coluche, ça me semble être Jamel.
Jamel Debbouze.
Jamel Debbouze, oui, Jamel Debbouze, bien sûr. Et il y en a bien d'autres, il y a Gad Elmaleh, il y a Danny Boone, enfin il y a beaucoup de gens qui sont drôles.
Pour revenir à la radio et rendre hommage à Pierre Péchin et tous ses prédécesseurs, Francis Blanche, Bourville aussi, qui a été le matin à l'antenne avec Maryse, et tous ces autres-là, je crois que dans les comiques actuels, avec leur formidable talent, des gens comme Bigard, Franck Dubosc ou les autres, ne se risqueraient pas ce marathon formidable qu'est l'émission de radio quotidienne, car il y a une usure dans laquelle ils se méfient, et ça a été un grand courage de la part de tous ceux-là que de se lancer dans cette épreuve.
Allez, un petit dernier pour la route, un petit coup de pif, le jour du Beaujolais Nouveau, en 98, et Laurent Gérard dans une de ses meilleures trouvailles, le duo Brialy-Depardieu.
Jean-Claude Brialy, vous allez certainement fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau.
Hein, tellement merveilleux, tellement merveilleux. Dans mon restaurant, on fête l'événement. Oui. Avec tous ces enterrements, j'en avais assez de la bière. Un peu de pinard nous fera pas de mal, c'est tellement merveilleux. Tous mes amis pocherons seront là. Philippe Léotard, même bourré, il est toujours moins chiant que son frère. Catherine Deneuve, merveilleuse, bien que ça se boive sans glaçon, elle sera là. Jeanne Moreau, toujours aussi jeune. Jacques Higelin, toujours aussi, je dégueule dans mon accordéon. Evelyne Leclerc, toujours aussi poire au vin, tellement merveilleuse. Ça va être merveilleux. Alors, pour partager ce grand moment de bonheur, j'ai appelé mon ami Gérard Depardieu. Allô, Gérard? Quoi? C'est ton ami Jean-Claude Brialy. Oh merde, le pansement nouveau est arrivé. Justement, Gérard, j'organise à l'Orangerie, mon restaurant, une grande soirée avec mon ami Beaujolais Nouveau. Il est tellement merveilleux. Ça va te faire plaisir. Cette année, il est comme ton ami Carole. Il a du bouquet. Oh, je préfère quand il a de la cuisse et de la culotte. Gérard, viens te mettre minable avec nous. Tu gareras ta moto dans mon parking à vélo. J'ai tout prévu. Dis donc, pansement, t'aurais pas dans l'idée de me faire picoler pour me faire perdre ma Légion d'honneur? Pas du tout, pas du tout. J'ai même prévu du saucisson avec pour que tu aies une nouvelle rosette. Gérard. Quoi encore? Les magasins Nicolas t'embrassent. Oh, lâche-moi la grappe, les vendanges sont faites, pansement!
Et puis aujourd'hui, Gerhard Schröder est officiellement désigné chancelier Jean-Claude Brialy.
Tellement merveilleux. Tous mes amis seront là. Ce soir, dans mon restaurant, j'organise une grande choucroute partie avec tous mes amis allemands. Ute Lemper, toujours aussi chiante. Daniel Cohn-Bendit, toujours aussi conne. Wim Wenders, toujours aussi triste. Jeanne Moreau, toujours aussi jeune. Bruno Gans, toujours aussi toilette. Gans de toilette.
Oui, ça m'avait échappé. C'était pas mal pourtant.
Je vais te ralentir.
Gans de toilette.
Camillo, toujours aussi Zach Varum aussi. J'étais tellement content pour mon ami Gérard que je vais passer un coup de fil en PCV. Allô, Gérard. Hans. Es ist dein Freund, Jean-Claude von Brialy. Ach so, Hansaplast. Gérard, viele Grüße für deine Investiture. Danke, auf Wiedersehen. Nur ein Moment encore, Gérard. Gérard, passe encore. Maître Canter t'embrasse. Ça suffit. Sag warum. Also, auf Wiedersehen, Hansaplast.
Bon, c'est l'heure de séparer, tout le monde est sous la table de toute manière. Robert, merci d'être venu de ton sud-ouest.
Oui, de Narbonne, ça m'a fait plaisir.
Pierre, l'actu, on en a parlé tout à l'heure. Bon courage pour la suite. Et Jean Châtel également pour cette œuvre de complicité. Vous êtes copain depuis combien de temps avec Pierre?
J'aime mieux pas le dire. Hein. Mes admiratrices écoutent. Hein.
Les enfants d'Europe 1, c'est chaque lundi, chaque vendredi, de 10h30 à midi. On se retrouve donc très vite. Salut.
Melon, mon cher Marc, c'est maintenant noté sur les agendas. Personne n'aurait l'hérésie de rater le lundi matin ou le vendredi matin. Donc on se retrouve, dans 4 jours.
Et à demain matin, Marc Menon.